Vous écoutez Cédric du sport sur Choc FM.
On est de retour sur Choc FM dans Cédric du sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. On est là en ce samedi en mission enregistrée. En première partie, on avait parlé principalement du soccer, on avait balayé l'actualité dans les championnats européens, on avait dit un mot, a fait un gros format sur la Major League Soccer, rappelé le palmarès, rappelé les matchs qui auront lieu durant la fin de semaine, et on a également parlé des classements. Donc on parle pas suffisamment de la Major League Soccer, donc ça a été l'occasion de le faire. Là maintenant, de façon inhabituelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quand même un assez bon long segment sur les combats de boxe. Comme si vous le rappelez, la semaine dernière, on a eu une entrevue avec Stéphane Malone, qui est un ancien boxeur camerounais qui vit à Montréal et coach. Très longue entrevue de 29 minutes, et je vous invite encore une fois à aller écouter ça sur chocfm.ca, sur les réseaux sociaux, et bien sûr de liker la page de chocfm.ca. Donc, pour cette deuxième partie de Cédric du Sport, ce samedi 16 mars, on va d'abord parler, on fait le compte à rebours là depuis plusieurs mois maintenant, des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui auront lieu du 16, du 26 juillet, pardon, au 11 août sur les quais de la Seine. Ça, c'est pour la cérémonie d'ouverture, les jardins du Trocadéro. Donc ceux qui connaissent Paris, c'est une très belle place. Et la cérémonie de clôture au Stade de France. Il y aura 10 500 athlètes, ça c'est le maximum possible, pour 329 événements, dont 32 sports, et bien sûr avec un gros quota de athlètes canadiens. Et comme je le dis à chaque semaine, pour ceux qui peuvent, ceux et celles qui peuvent, allez supporter les athlètes canadiens, parce que c'est vraiment les Jeux Olympiques, c'est l'aventure d'une vie. Pour beaucoup de sportifs, c'est la seule opportunité de mettre en valeur le sport qu'ils pratiquent, que ce soit des sports comme la lutte, comme la natation, comme l'aviron, comme le tir à l'arc, comme le tir avec, je pense, avec pistolet. C'est vraiment une opportunité d'une vie. C'est les Jeux qui ont lieu tous les 4 ans, et là, ils vont avoir lieu à Paris pour la première fois en plus de 100 ans. On espère pouvoir y participer là, soit en tant que fanatique, soit en tant que, ce qui est sûr, ce sera pas en tant que journaliste, parce que la demande d'accréditation qui a été faite n'a pas reçu de réponse. C'est les choses, la vie, c'est pas grave. Toujours est-il que, au moment où cette émission est enregistrée, les Jeux auront lieu dans exactement 16 semaines, c'est-à-dire 133 jours. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, comme je le dis à chaque semaine, non pas 16 semaines, 19 semaines. Voilà, 19 semaines, donc c'est un petit peu moins que 5 mois. Donc, tous ceux qui, celles qui ont l'opportunité d'aller supporter des athlètes canadiens qui essaient de se qualifier pour les Jeux Olympiques, allez-y, allez le faire. Un mot encore sur les Jeux de Paris 2024. On sait que la billetterie, il y a eu quelques soucis parce que tout cela coûte, ça coûte vraiment cher là. On a appris entre autres comme ça que il y a l'athlète, l'ancien champion de saut à la perche, Jean Galfion, qui ne participera pas aux Jeux. Il y a eu comme un genre d'imbroglio puisqu'il aurait dû participer en portant la flamme olympique, en étant sur un aviron, non pas un aviron, en tout cas sur un véhicule nautique là. Je ne sais pas si c'était un bateau, une planche à voile, quelque chose comme ça. Et puis finalement, ils ont décidé qu'il ne pourra pas le faire. Et ils lui ont offert en alternative de courir pendant quelques dizaines de mètres avec la flamme, et il a refusé de le faire, ce qui fait que c'est quand même dommage qu'il puisse pas le faire. Parce que c'était un grand champion, hein, Jean Galfion. Pour ceux qui suivent les Jeux Olympiques depuis plus de 20 ans, c'était vraiment un grand champion. Qu'est-ce qu'on a appris aussi? Que le Real Madrid, grand club de soccer, n'enverra pas, ne permettra pas à ses joueurs de participer aux Jeux Olympiques. C'est un peu dommage parce que, a priori, Mbappé devrait rejoindre le Bayern le Real Madrid. Et si ce club-là ne lui permet pas de participer, ça veut dire que, s'il est recruté par le Real Madrid, ça veut dire qu'il ne pourra pas participer vraisemblablement aux Jeux Olympiques. Ce sera dommage parce que c'est à Paris. Et Mbappé, bon, il n'est pas né à Paris, il est né à Bondy, mais c'est tout ça, la banlieue de Paris. Donc ce serait dommage que dans sa ville, disons où il a grandi, il n'ait pas l'opportunité de participer aux Jeux. Il y a eu aussi une autre polémique concernant aux Jeux, c'est concernant, et ça vous avez entendu sans doute parler, pour ceux qui suivent l'actualité en France, la participation, et ça c'est pas du point de vue sportif, la participation éventuelle de la chanteuse de pop Aya Nakamura durant la cérémonie d'ouverture. Donc là, ce qui aurait été dit, c'est que elle chanterait des chansons de la grande chanteuse, la légende artistique française Édith Piaf. Écoutez, au-delà des polémiques sur les personnes racistes qui ont posté des photos vraiment honteuses, vraiment malheureuses contre Aya Nakamura, tout ça dénote d'un certain climat malsain en France, dans lequel, oui, il y a des vedettes qui viennent de, disons, d'Afrique, qui viennent d'autres origines, qui ont mis le nom de la France très en haut. Aya Nakamura, depuis plusieurs années maintenant, c'est l'artiste francophone la plus écoutée. Oui, on peut se poser des questions sur ses qualités en tant que chanteuse, ses qualités vocales, sur sa présence, sur sa façon de s'habiller, mais c'est son style, il faut le respecter. Ok, elle n'a peut-être pas les compétences pour pouvoir chanter du Piaf, mais au moins lui donner une chance. Tout cet abattement, tout cet acharnement contre elle, c'est vraiment malheureux. Je trouve ça étrange. Je trouve ça étrange. Moi, si j'étais en studio là, rien que pour embêter les racistes là, je jouerais du Aya Nakamura toute la journée. Vous voyez? Donc, en tout cas, c'est ça le mot sur. Le mot sur les Jeux Olympiques, et je rappelle que ces Jeux-là auront lieu du 26 juillet au 11 août à Paris durant 3 semaines. Avant de parler de la Ligue nationale de hockey et de la NBA, je voulais dire un mot sur les matchs qui ont eu lieu, les combats. Pendant qu'il y a eu bien sûr le combat de Cédric Doumbé, donc on avait parlé de ça avec Stéphane, le boxeur, on avait parlé aussi du combat de. Et Doumbé, comme on le sait, avait perdu au troisième round dans des circonstances un peu étranges là, que soi-disant il avait une écharde au pied et que cette écharde-là lui l'empêchait de combattre, continuer à combattre hors dans les règlements du MMA puisque c'était pas de la boxe pure, c'est ce qu'on appelle du MMA donc les martial arts. On peut pas arrêter, un athlète ne peut pas décider d'arrêter le combat comme ça. Il doit soit continuer, résister à sa douleur, soit c'est comme une défaite par forfait, c'est ce qui est arrivé. Donc, technical KO, il a perdu tout simplement, et parce que par décision de l'arbitre, et c'est fortement dommage parce que Doumbé, oui, on peut ne pas aimer le fait que c'est quelqu'un qui parle énormément, mais quand même, c'est un grand champion. C'est quelqu'un qui a été plusieurs fois champion du monde dans sa discipline, si je me rappelle bien, au moins 9 fois. Et finir comme ça, c'est vraiment dommage. On espère qu'il aura l'opportunité de se rattraper au minimum par un combat revanche face à Baki. Dans l'autre combat qui était très attendu, c'était bien sûr Anthony Joshua face à Ngannou. Et là, on était vraiment, vraiment surpris, puisque avant même Francis Ngannou, qui était proclamé le soi-disant homme le plus fort du monde, avant la fin de la deuxième reprise, il est tombé KO. Et on s'est posé des questions. Est-ce que le combat était arrangé? Est-ce que c'était encore de la trempe du fait que son premier combat contre l'Anglais, là, Tyson Fury, là où. Nettement, il avait dominé nettement Fury, mais après ça, il y avait comme une décision partagée des arbitres, donc par défaut, une victoire de Fury. Et sur certaines vidéos, on a vu clairement que le fameux coup qui envoie Francis Ngannou au tapis, ben, on n'est pas sûr que franchement Anthony Joshua l'a vraiment touché. En tout cas, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur une page sur les réseaux sociaux qui s'appelle Mboki Culture. Je vais vous faire. Écoutez la déclaration, l'une des déclarations de Gano qui s'explique à cause de cette malheureuse, une défaite n'est jamais heureuse de toute façon. Il s'explique, disons, pendant à peu près 2 minutes 30 sur comment il a perdu ce combat-là. Et on revient, on en parle brièvement. Et ensuite, on va parler des ligues professionnelles nord-américaines. Je vous invite à écouter ça. C'est Francis Ngannou. Et ce son est extrait de la page du site Mboki Culture. Écoutez ça.
C'est comprévu, c'était déjà une journée un peu bizarre. C'est vrai que tout ne s'est pas passé comme prévu. Le combat lui-même ne s'est pas passé comme prévu. C'était déjà une journée un peu bizarre, très bizarre, si je vais dire ça. Parce que toute la journée, j'ai jamais été dans le combat. Je ne me suis jamais présenté à ce combat. Parce que toute la journée, j'étais pas là. Je suis arrivé à l'arène aux alentours de 22h et j'ai 23h et j'ai dû combattre à 3h30 pendant 4h30. En aucun moment j'étais moi-même quoi. Je me rappelle, je m'échauffais, je transpirais, mais j'avais sommeil. Ce qui était un peu bizarre, on a accusé le fait qu'il se faisait tard, bien que je m'entraînais déjà un peu tardivement pour me préparer aux heures du combat. Mais bon, après, il ne faut pas faire des excuses. Hein. En tant que combattant, il n'y a que deux issues dans un combat. On gagne ou on perd. Et il n'y a que deux façons de gagner ou de perdre. Soit par décision, soit par KO. Et désolé encore pour ceux qui ont eu le cœur brisé, parce que beaucoup se sont sentis énormément mal. Ma famille, mes amis, mon équipe se sont sentis énormément mal. Pour certains ont même eu peur. Mais heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Ouais. C'était juste un jour, quoi. Là, on va reprendre nos esprits, aller s'entraîner prochainement, venir mieux préparer. Et voilà, observer encore plus le jeu, comprendre encore plus, parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où on apprend encore dans le monde de la boxe. Et c'est pas pour autant que je compte abandonner la boxe parce que c'est nouveau, au contraire. Aujourd'hui, ça me doit déjà. Avant, j'aurais pu dire que je faisais ça rien que pour le plaisir, mais là, après vendredi soir, je pense que la boxe me doit beaucoup et je vais revenir forcément pour prendre ce qui m'appartient. Donc, voilà.
Ok, donc sur ce combat-là, les conclusions, ben écoutez, difficile, difficile d'analyser parce que ça n'a pas duré suffisamment longtemps. Anthony Joshua clairement était plus fort techniquement que Ngannou. Je sais pas, au niveau physique, quand même, ça allait. Mais Ngannou dit qu'il était fatigué. Bon, déjà, c'est bien, c'est noble de sa part de s'excuser auprès de ses fans parce que ça a choqué les gens, le fait qu'il perde dans ces conditions-là. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo sur YouTube, comment il tombe, la façon dont son genou se plie, mais enfin, c'est effrayant, quoi. C'est un Ngannou, là, c'est un géant, c'est un colosse, ce gars. Donc, il tombe comme ça, comme un vieux sac de patates. C'était quand même impressionnant de voir ça. Maintenant, il dit que dans l'approche du combat, c'est vrai que moi-même, j'avais essayé de voir ça un peu en streaming. Donc, comme ça, sur les sites, un petit peu. Bon, je ne vais pas vous détailler là. Et là, j'avais été surpris de voir qu'effectivement, il avait attendu vraiment longtemps. Son combat aurait dû lui avoir autour de minuit. Finalement, ça commençait autour de 3 h du matin, heure locale. Probablement pour les contrats de pay-per-view, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui vivaient en Amérique du Nord qui avaient payé pour voir ce combat-là. Donc, il fallait qu'il commence le plus tard possible. Mais quand même. C'est Francis Ngannou là. C'est vrai que oui, il n'a pas tout perdu. Disons, il a perdu, c'est le vieux adage qui perd gagne. Il a gagné 20 millions de dollars. Il faut rappeler que sur son dernier combat à UFC, il gagne 600 000. Mais enfin, Francis Ngannou, quel genre de sortie ça? Dans l'interview avec Stéphane, à un moment donné, je mentionne le fait que je me pose des questions sur les qualités techniques de Ngannou en tant que boxeur, mais boxeur, la boxe anglaise. Mais là, quand même, se prendre une telle raclée, c'est fort. C'est vraiment fort. Et là, on apprend que il a déjà prévu un autre combat en tant que boxeur anglais. D'ailleurs, dans sa déclaration, il dit qu'il ne va pas abandonner, qu'il va continuer à persévérer, continuer à s'améliorer. Mais enfin, Ngannou, il a 37, peut-être 38 ans. Et vous savez, avec la fameuse polémique sur les âges des athlètes camerounais, peut-être qu'il a plus que ça. Il va falloir qu'il fasse attention. En tout cas, qui travaille beaucoup sur sa condition physique, ça on sait qu'il va le faire. Mais sur sa technique surtout, parce que si c'est pour aller prendre une autre raclée comme ça ne vaut pas la peine, quoi. Ça va qu'il va approcher un gros chèque, hein, 20 millions, ça c'est sûr que ouais. Mais quand même, Stan Francis Ngannou, c'est pas possible de faire ça. En tout cas. Bref, il fallait que je dise un mot là-dessus sur ces fameux combats-là. Et puis, c'était vraiment. J'espère que ce n'est pas des combats arrangés, parce que ça, franchement, ce serait très, mais très, très, très décevant. Ok, je rappelle qu'on est sur Cédric du Sport, l'émission de sport de Chèque FM, que vous écoutez tous les samedis de 11 h à midi. On est vraiment multisport, là, vous voyez. On a commencé par le soccer en Europe. Maintenant, on a fait Le soccer en Amérique du Nord, on a parlé des Jeux Olympiques un petit peu, et là on vient de parler de combat, de boxe et de MMA. Et maintenant, on va parler de hockey, le hockey sur glace, puisque déjà on va donner les classements de la conférence Est, donc la course pour les playoffs. Premier Floride avec combien de points? 94 points déjà, alors qu'on a seulement 67 matchs. Deuxième, c'est Boston, c'est New York Rangers. La Caroline, cinquième, Toronto. Toronto est toujours dans cette ligne-là, autour de cinquième dans l'Est. Ensuite, c'est Philadelphia, Tampa Bay et les New York Islanders. Juste en dessous, moi j'appelle ça ligne de flottaison. Donc, pour les équipes qui sont de la course pour avoir une place qualificative en playoff, il y a Détroit, Washington, Buffalo, New Jersey. Et là, totalement décroché, qui n'iront sans doute pas en playoff, ce sont donc en série, ce sont les clubs de Pittsburgh, Montréal, le Canadien, Ottawa et Columbus. Donc ça, c'est dans la conférence Est. Dans la conférence Ouest, c'est Vancouver qui fait toujours une fantastique saison, 92,67 matchs avec déjà 42 victoires. Donc ils ont carrément gagné deux tiers de matchs joués. Donc premier Vancouver, deuxième Colorado, troisième Dallas, ensuite c'est Winnipeg, c'est Edmonton, Nashville, Los Angeles et Vegas qui est juste au-dessus pour la dernière place qualificative. Donc qui suivent? C'est Saint-Louis, les Blues, Minnesota, Seattle, Calgary, Arizona est probablement déjà éliminé pour la course aux séries, là, aux playoffs. Anaheim qui suit derrière, Chicago et San Jose. Je voulais dire un mot sur, puisqu'on parle de la NHL dans la Ligue nationale de hockey, on ne dit pas souvent les classements individuels, puisque je le fais pour le basket, mais je vais le faire là aujourd'hui pour le hockey aussi. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que les statistiques individuelles dans le hockey, ça donne droit à des titres en particulier. Comme par exemple le meilleur marqueur, je pense que c'est le trophée Maurice Richard. Le trophée de meilleur gardien, donc celui le gardien qui a le plus grand pourcentage de réussite d'arrêt, on appelle ça le trophée Vézina. Et oui, Cédric, je connais le hockey. Qu'est-ce qu'on a encore? Ça, c'est un peu plus, on va dire ça comment? Moins évident à comprendre, c'est le trophée pour les face-offs, donc pour les confrontations, récupération de la puck. Il y a aussi pour les pénalités, donc chaque fois qu'un joueur a été envoyé en punition, c'est comme ça qu'on dit au Québec. Et franchement, il y a beaucoup de noms. Peut-être pour ceux qui savent, ben je vais vous donner les noms comme ça juste pour voir. Donc pour le joueur qui a scoré le plus de points dans la ligue jusqu'à présent, c'est Nathan MacKinnon. Donc c'est un Canadien. Il vient, je pense, de Nova Scotia, donc de Nouvelle-Écosse. 115 points en seulement 42 matchs. C'est fabuleux ce qu'il fait. Nikita Kucherov de Tampa Bay. Connor McDavid, lui, ça fait des saisons à 100 points, il en fait toujours. David Pasternak de Boston. Et le cinquième, c'est Mika Rantanen de Colorado. Donc ça, c'est pour les points. Maintenant, au niveau des scoreurs, donc ceux qui ont marqué le plus de buts dans la ligue jusque-là. Donc le premier, c'est Austin Matthews de Toronto Maple Leafs. Donc 54 buts en 63 matchs. Il est un peu freiné là. Il était sur une tendance qui l'aurait amené sans doute à scorer près de 70 buts, mais je pense pas qu'il va atteindre ce résultat-là. Suivent ensuite Zach Hyman de Edmonton, Sam Reinhart, Nathan MacKinnon, David Pasternak, Kucherov, Marchessault. Ça, c'est un joueur de Vegas, les Golden Knights. Il est là-bas, ben, c'est un joueur québécois. Ensuite, c'est Panarin, Boeser, Forsberg, Nylander qui reste sur une belle saison là, 56 buts déjà. Et quel autre nom notable? C'est JT Miller et Braden Point. Donc, c'est ça. Et au niveau des gardiens, donc ceux qui ont gagné le plus de matchs, c'est Stolarz de Philadelphie, pardon, de la Floride, Helbuyck de Winnipeg, Swayman de Boston, Rittich de Los Angeles et King, Dakor de Seattle, Bobrovsky de la Floride, Jonathan Quick de New York Rangers. Et un nom notable, c'est Demko, c'est le gardien des Vancouver. Évidemment, pour les clubs les plus faibles, leurs gardiens ne sont tout simplement pas classés, comme par exemple Samuel Motombo de Montréal. Ben voilà quoi. Beaucoup, beaucoup de défaites déjà, là. 31 victoires et 31 défaites. C'est franchement dommage pour lui. Donc c'est ça pour la Ligue nationale de hockey. Je pense que j'avais donné, oui, j'avais donné les résultats dans les deux ligues. Donc on va passer rapidement à la NBA. À la NBA, on a appris, et ça on va adresser au nom de Choc FM, je ne sais pas si une autre personne l'a fait là, condoléances à la famille de RJ Barrett, donc le joueur des Toronto Raptors qui a perdu son petit frère Nathan, qui jouait pour les Mississauga Monarchs. C'est une équipe que je connais parce que j'ai un ami dont le fils joue pour cette équipe-là, et moi je vis justement à l'ouest de Toronto, à Mississauga. Mon fils Enzo aurait pu jouer pour cette équipe-là, mais je pense qu'il est encore trop jeune. Enzo n'a pas encore 12 ans, et je pense que cette équipe-là prend les joueurs de 12 ans et un peu plus. Enfin, je suis pas sûr. À 100%, donc on a appris comme ça le petit frère de RJ Barrett, ex-joueur des New York Knicks et actuel joueur des Toronto Raptors, qui est décédé. On ne sait pas à quel âge il avait, on ne sait pas dans quelles circonstances il est décédé. Toujours est-il que ben, respect et sincère condoléances à la famille éprouvée. On espère qu'ils garderont le courage dans ces difficiles circonstances-là. Voilà, il fallait le dire. Et je rappelle qu'on est sur Cédric Desport, l'émission de sport de Choc FM, que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi sur le 105.1, la radio 100% Toronto, 100% francophone. On a presque terminé l'émission de ce samedi 16 mars. On parle de la NBA. Déjà classement dans la course aux playoffs, c'est Boston qui est en tête après 52 matchs. Pardon, après 66 matchs, ils ont 52 victoires dans la conférence Est. Suivent ensuite Milwaukee, Cleveland, New York, Orlando et Indiana. Maintenant, les équipes qui se battent pour ce qu'on appelle le play-in, donc c'est les places de la 7e à la 10e place. 8e, c'est Philadelphia. Ensuite, Miami, le Heat. Chicago, 9e. Et 10e, c'est Atlanta. Dans l'ordre du classement, dans les équipes qui sont décrochées, maintenant, c'est Brooklyn, les Nets. Donc, 26 victoire seulement en 66 matchs. Les Raptors, c'est définitivement terminé. Je pense que d'ici 2 matchs ou 3, ils seront définitivement éliminés pour la saison là. Donc 23 victoires en 66 matchs. Ils avaient réussi un très très beau match au milieu de la semaine à Denver, où ils avaient mené pendant longtemps et ensuite ils ont fini par s'écrouler. Il faut savoir, il y a une statistique vraiment impressionnante concernant les Raptors. Depuis les blessures de la plupart des titulaires, le joueur qui a passé le plus de temps dans l'effectif actuel des Toronto Raptors, joueur actif, c'est Grady Dick, qui est un rookie qui est arrivé l'année dernière. Donc là, c'est vraiment, c'est dur ce qui se passe en ce moment du côté des Raptors. Allez, on vient sur les classements. Donc on disait Brooklyn 11e, Toronto 12e, Charlotte 13e, Détroit 14e, et c'est Washington qui clôt la marche. 11 victoires seulement en 66 matchs, c'est pas en termes de pourcentage, ça fait quoi? 9%? C'est misérable, c'est pas possible ce qui se passe à Washington. Dans la conférence Ouest, c'est Oklahoma City qui est en tête pour l'instant, au moment où cette émission est enregistrée, donc 46 victoires, 66 matchs. Denver à égalité derrière. Minnesota suit en troisième position. Ensuite, c'est les Clippers, New Orleans et Sacramento. Donc, ça, c'est du premier au sixième. Dans les équipes qui se battent pour le play-in, donc pour la place qualificative en playoff, c'est Phoenix, Dallas, les Lakers et Golden State. Maintenant, les équipes qui sont derrière, quasiment décrochées pour la course au playoff, c'est Houston, Utah, Memphis, Portland et San Antonio. Voilà, on va conclure cette émission de Cédric du Sport avec les classements individuels, parce que ça a son importance. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet d'établir, ben, déjà donner des trophées là. J'ai mentionné il y a quelques minutes les trophées individuels dans la Ligue nationale de hockey. Il y a aussi des trophées individuels, bien sûr, dans la NBA qui concernent les statistiques. Et ça, c'est vraiment basé sur les statistiques pures. Et ça a son importance parce que lorsqu'un joueur finit par exemple meilleur rebondeur de la Ligue ou meilleur défenseur ou meilleur marqueur, ça permet de, en quelque sorte, avoir des bonus sur son prochain contrat, et ça a son importance. Et c'est aussi quelque part une preuve de talent. Dans ce sens-là, meilleur marqueur pour l'instant, c'est Luka Doncic, 34 points par match, suivi par Shai Gilgeous-Alexander, le Canadien, 31 par match. Giannis Antetokounmpo, juste en dessous de 31 points par match. Kevin Durant, 28 points par match. Et Donovan Mitchell, à près de 28 points par match. Au niveau des défenseurs, donc meilleur rebondeur Domantas Sabonis qui a réussi une performance éclatante devant les Lakers en milieu de semaine. Je vous invite à aller voir ça. Rudy Gobert est deuxième, Anthony Davis est troisième, Nikola Jokic est quatrième et Jalen Duren de Détroit est cinquième. Au niveau des passeurs, c'est toujours Tyrese Haliburton donc qui mène ce classement depuis le début de la saison. Trae Young est deuxième, Luka Doncic est troisième, Nikola Jokic est franchement c'est extraordinaire pour un pivot d'être quatrième passeur dans la ligue et Domantas Sabonis est cinquième. Au niveau des leaders encore défensifs, c'est Victor Wembanyama qui est toujours le français, le rookie, avec 3 comptes par match, suivi par Kessler d'Utah, Brook Lopez de Milwaukee, Chip Holmgren de Oklahoma City et le cinquième, c'est Anthony Davis. Les deux derniers classements individuel, c'est au niveau des 3 points. Donc, Steph Curry à peu près 5-3 points par match, suivi par Luka Doncic, Anthony Simons, Donovan Mitchell et Desmond Bane. Et au niveau des interceptions, c'est Shai Gilgeous-Alexander toujours en tête, 2 par match, suivi par Aaron Fox, Matisse Thybulle, Donovan Mitchell et enfin l'apparition de Kawhi Leonard en tant que 5e dans le classement des meilleur intercepteur de la ligue. C'est sur cette note qu'on va se quitter pour cette émission de Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. Ça a été un plaisir d'être avec vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous à chaque fois sur le radio 100% Toronto, 100% francophone. La semaine prochaine, on va revenir sur les tirages au sort de la Champions League puisque on aura les résultats là, des tirages au sort, non seulement pour la Champions League, mais aussi pour l'Europa League et pour l'Europa, je pense que ça s'appelle l'Europa League Conférence. Donc on aura les tirages intégraux là, depuis les quarts de finale jusqu'au demi et probablement jusqu'au final. Donc ça ce sera savoureux, ce sera l'occasion de voir ça. On dira aussi un mot sur... On va faire un petit podcast là avec des amis du Paris Saint-Germain Club de Toronto. Donc je prépare ça dans le cadre des Coupes. On va dire un mot là-dessus. Ce sera le podcast pré-classico. Donc on aura l'occasion de discuter de ça. Et puis on dira un mot aussi bien sûr sur les ligues professionnelles nord-américaines. Comme on le fait à chaque fois. C'est un plaisir d'être avec vous sur la radio 100% Toronto, 100% francophone. C'est Cédric Ngon pour vous servir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, sur le 105.1, la radio 100% Toronto, 100% francophone. Passez une bonne fin de semaine à tous.